bienvenue à tous. On est de retour au podcast Hypercroissance, édition discussion d'affaires. Les podcasts qui sortent le jeudi et aujourd'hui, un petit peu différemment qu'à l'habitude. Je suis pas seulement avec mon bon ami Jonathan Léveillé, mais également avec Julien Mboni, cofondateur de Valeo X, une firme spécialisée en Bitcoin. Julien, Jonathan, comment allez-vous aujourd'hui, messieurs?
Ça va très bien. Merci beaucoup de l'invitation.
Ça va super bien également aussi, Antoine. Merci. Je pense que ça va être intéressant, la discussion à trois aujourd'hui. J'avais bien hâte de parler de ce fameux sujet-là.
Parce que là, les gens qui nous écoutent sont peut-être en train de se dire, mais de quoi ils vont parler aujourd'hui? De quoi qu'ils vont parler, Jonathan, Julien et Antoine ensemble? Mais c'est simple. Si vous avez suivi un petit peu les nouvelles au niveau financier, vous avez certainement noté qu'il y a eu des changements dans la crypto-monnaie et des changements spécifiques au niveau de FTX. Une organisation qui a déclaré faillite, je crois, il y a à peu près une semaine de cela maintenant, et une faillite de taille, parce que là, on parle ici de fraude comme pas possible. Jonathan, je pense que tu as fait beaucoup de recherches, tu as analysé un petit peu ce qui s'est déroulé dans les derniers jours. Voudrais-tu peut-être essayer de donner un petit peu de contexte à l'audience et par la suite, Julien et moi, on pourrait essayer de rajouter ce que nous, on a suivi de notre côté et qu'est-ce qu'on fait de cette situation-là et qu'est-ce que les gens d'affaires peuvent sortir de ce qui se déroule ici pour peut-être ajuster leurs investissements futurs en crypto-monnaie?
Effectivement, puis je vous conte l'histoire un peu, mais à chaque journée et à chaque semaine qui se déroule depuis ce temps-là, il se rajoute des morceaux dans l'histoire, de la sous-histoire, et ça va faire assurément un film devant nous là, ou un épisode de Netflix, de documentaire, de qu'est-ce qui s'est réellement passé en arrière. Mais ma perception à moi, c'est présentement un grand cataclysme qui se passe dans le domaine de la crypto-monnaie. Et c'est pas nécessairement un problème au niveau de la crypto, mais au niveau plutôt de l'humain qui a géré tout ça derrière, entre autres la compagnie FTX. Puis ça sera bon de savoir aussi l'opinion de Julien par rapport à ça, qui est beaucoup plus connaissant que moi dans le domaine. Je raconte un petit peu l'histoire de l'entreprise FTX. N'hésitez pas à m'interrompre en cours de route, particulièrement Julien, non? Mais ce que je vois à date, c'est que en arrière de cette fameuse entreprise-là, FTX, il y a un personnage qui s'appelle Sam Bankman-Fried, qui se fait beaucoup appeler SBF. Et en 2014, il sort du MIT, un peu comme en mode « je suis un génie et je parais bien au niveau capacité intellectuelle ». Et en 2015, il réussit à exploiter pas nécessairement une faille, mais une possibilité dans le domaine du crypto, au niveau des bitcoins, d'acheter de la crypto-monnaie d'un échange, exemple, d'un exchange, d'un endroit centralisé où ce qu'on peut acheter et vendre de la crypto-monnaie. Et il se rend compte qu'il y a une différence de prix entre différents pays ou différents continents. Donc, il se rend compte qu'un bitcoin vaut un certain montant X aux États-Unis et qu'il vaut plus cher au Japon. Donc, il se dit, je vais utiliser cette différence-là de prix de marché pour faire un profit. Donc, il se met à acheter des bitcoins dans un échange aux États-Unis pour le revendre, par exemple, au Japon. Et il se met à générer énormément de profits derrière cette normalisation de marché en arrière de ça. Il décide à ce moment-là, en 2016, de fonder une entreprise qui s'appelle Alameda Research, une compagnie qui va justement faire du trading de crypto-monnaie. Et selon ce que j'ai pu trouver, puis tu me corrigeras, Julien, si jamais tu as plus d'informations précises là-dessus, mais il promet jusqu'à 15% de rendement sur les investissements qui sont faits à partir d'Alameda Research pour les gens qui confient de l'argent à Alameda Research.
C'est comme un hedge fund, en fait. C'est genre une firme de capital à haut risque qui a parti.
Exactement. Il promettait des rendements qui, sur normalement un marché traditionnel, ça fait pas de sens de promettre du 15%, Julien, on s'entend. Là, c'est un rendement qui est énorme, que tout le monde voudrait dire « je veux ce rendement-là ». Et il réussit à attirer quand même beaucoup d'argent dans sa firme de hedge fund à ce moment-là, qui est beaucoup basée sur la crypto-monnaie. Le temps avance, on avance jusqu'en 2019, il décide de fonder FTX, qui est ce qu'on appelle en anglais une exchange, où ce que les gens peuvent acheter et revendre la crypto, parce que le fameux personnage Sam, SBF de son surnom, n'était pas content des plateformes qui existaient, et il s'est dit « je vais fonder la première plateforme qui est faite par des traders de crypto » pour les traders de crypto. Et il réussit d'une manière extrêmement rapide à attirer beaucoup, beaucoup de fonds. On parle de plus de 2 milliards de dollars de fonds d'investissement, entre autres des grands fonds comme BlackRock et Sequoia Capital. Et il y a même une anecdote à travers tout ça qui il aurait sécurisé un financement de 210 millions pendant qu'il jouait à un jeu qui était League of Legends. Et la personne du fonds d'investissement a dit « Je l'aime, ce gars-là. Il a vraiment un style incroyable. On peut investir dans sa compagnie. » Ah oui, exactement. Il avait l'air à s'en foutre carrément du 210 millions. Et c'est pour ça que les gens ont dit « Je vais investir. Il n'y a vraiment pas besoin de nous autres. Donc, on va mettre des sous là-dedans. Ouais. » Et je ne sais pas si à ce stade-ci, Julien ou Antoine voulaient rajouter quelque chose. Sinon, je continue l'histoire. Puis,
Ce qui est important à noter vraiment, c'est que c'est surtout l'histoire du début sur l'arbitrage qu'il faisait avec les différents marchés aux États-Unis puis au Japon. Ça, c'est l'histoire que le gars nous a dit. Il n'y a pas vraiment de point de vérifier que c'est vrai. C'est l'histoire que l'Immaculée un peu là, qui est venue dire à l'avant. Puis, en tout cas, je le spécifie parce que plus loin, on va apprendre avec les documents de faillite un peu là, les états financiers de sa firme là, de hedge fund, qu'on s'est remarqué qu'au fil des années, elle a juste perdu de l'argent. Fait que ça, c'est comme un peu contradictoire avec l'histoire.
Des gens qui promettent des retours de 15-20%, ça nous rappelle pas un certain monsieur Madoff là, au début des années 2000 là, qui promettait des retours. Ils ont peut-être quelque chose en commun, mais bon, avant d'arriver là-bas puis de faire des accusations qui sont en train de se dérouler d'ailleurs, là, j'étais capable de voir aujourd'hui, 22 novembre 2022, que là, c'est en train de sortir. Le volet criminel, tout ça est en train de venir cogner à sa porte. Mais avant de rentrer là-dedans, peut-être, Jonathan, on va revenir un peu à ça. Monsieur SBF fonde FTX, succès gigantesque très rapidement. Et même que si on regarde un peu tout ce qui se déroule, il devient un petit peu le porte-étendard, ou même Julien et moi, on en discutait avant le début du podcast. Il se dit porte-étendard un petit peu de la crypto-monnaie à Washington. On le voit aller serrer des mains avec des gens qui ont beaucoup d'influence. Bref, il devient une star, là. Et même qu'il y a des personnalités sportives, les Tom Brady, les Steph Curry de ce monde, qui vont apparaître dans des publicités pour promouvoir FTX. Donc, on dirait que tout va bien pour FTX, même que l'organisation, à un certain point, a une valorisation à 32 milliards de dollars. Qu'est-ce qui pourrait mal se dérouler ici?
C'est là que c'est vraiment impressionnant parce qu'effectivement, il a extrêmement bien joué la carte du marketing. Comme tu dis, il a attiré les Tom Brady qui ont investi des centaines de millions dans l'organisation. Ça a créé vraiment une confiance dans le marché. Il est passé de pas être dans les premiers échanges au monde à tomber pratiquement le deuxième au monde. Donc, une belle traction. Il se donne une image également de gars très terre à terre, qui n'est pas là pour l'argent. Il fait semblant qu'il conduit une petite voiture qui vaut pas cher et qu'il a de l'air de monsieur, madame, tout le monde. C'est vraiment impressionnant. Il a bâti vraiment une image qui est assez incroyable à travers tout ça. Donc, à partir de là, la problématique, puis Julien, tu vas peut-être être aussi bien placé pour peut-être le reformuler, mais c'est que le premier domino qui a tombé de tout ça, c'est le 2 novembre, CoinDesk, qui dévoile que fort probablement la majorité des actifs de FTX seraient adossés à la monnaie que FTX eux-mêmes ont inventée. Donc là, on vient d'inventer une fortune à propos de complètement quelque chose qui est de l'air un petit peu. Et la beauté de la chose, c'est que tant et aussi longtemps que le cours de cette monnaie-là qui a été inventée virtuellement augmente, il n'y en a pas de problème parce qu'il n'y a pas de rappel de marge nulle part qui se fait. Il n'y a pas personne qui sonne d'alerte. Et c'est ce qui arrive à travers le temps. La monnaie augmente, augmente, augmente. Et là, le fait que CoinDesk sorte son marché, premier domino qui tombe, ça commence à sonner des cloches et là, les gens de l'industrie commencent à creuser un petit peu plus loin à travers tout ça. Vas-y, Julien, je pense que tu as un point que tu veux ajouter.
En fait, là, je pense que c'est le point majeur. Premièrement, là, c'est que depuis 2015, vous avez vu beaucoup, tu sais, vous avez vu là, l'accroissement des crypto-monnaies, vous avez eu beaucoup d'entreprises qui offrent des services qui ont créé leur propre crypto-monnaie. Donc là, ça joue un peu à l'éthique parce que même plus loin, là, on va se rendre compte que c'est comme des actions d'entreprise non enregistrées. N'importe qui ici peut créer sa propre crypto-monnaie. C'est vraiment facile. Sur Ethereum, vous pouvez créer vos propres tokens. Et donc, dans les documents de faillite qu'on a vus de la firme, c'est que 75% de tous les tokens étaient détenus par FTX, premièrement. Et ils pouvaient en créer autant qu'ils voulaient. Il n'y avait pas de limite sur le nombre de tokens qu'ils pouvaient créer. Puis l'autre élément, c'est que Ils utilisaient ce token-là pour le donner en collatéral contre des fonds et d'autres crypto-monnaies. Donc, ni plus ni moins, en gros, là, chaque fois que tu avais des investisseurs qui arrivaient, ils voulaient investir dans la compagnie, ils prenaient l'argent des investisseurs puis leur donnaient leur shitcoin, on va l'appeler comme ça, leur token en échange qui est basé sur rien, qui ont pas de, il y a pas de limite sur, ils peuvent le créer out of thin air, et qu'en plus c'est eux qui ont plus de 75% de tous les tokens en circulation. Donc c'est là que ça a sonné vraiment des alarmes. Donc je peux te laisser poursuivre, mais c'était un point majeur à ce niveau.
Et ce qui est impressionnant, c'est que vu que c'est leur propre monnaie qu'ils créent et que c'est eux-mêmes l'échange centralisé, ils sont capables de manipuler un peu le cours, un petit peu de cette monnaie-là d'une certaine manière. Donc, ils peuvent eux-mêmes gonfler leur bilan, leurs actifs à partir de quelque chose qu'ils ont inventé eux-mêmes. Et à travers le temps, FTX s'est positionné un petit peu comme le sauveur dans le marché. Il y avait d'autres compagnies en crypto qui étaient en difficulté. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il allait sauver l'entreprise un petit peu, d'exemple de la faillite ou d'une mauvaise position financière. Et ils ordonnaient à ce moment-là de prendre toutes les liquidités de la compagnie acquises pour les ramener chez FTX en échange du fameux shitcoin, comme on dit, un dollar qui est inventé de nulle part. Donc, ils passaient pour des sauveurs, mais en réalité, c'est qu'ils essayaient juste d'aller chercher de la liquidité au bout de la ligne et d'échanger cette liquidité-là contre de l'argent qui est inventé de nulle part. C'est ça qui est impressionnant. Et si vous faites une petite recherche sur Google, il y a eu une interview de Sam Bankman-Fried qui explique ce schéma-là, qui l'utilise. Et l'intervieweur lui dit, écoute, t'es clairement en train de m'expliquer un Ponzi scheme. Puis il part à rire. Puis il dit, non, j'ai pas vraiment dit ça, mais et il est en train de s'incriminer lui-même que son pattern qu'il utilise pour être capable de créer cette richesse-là dans des livres est basé sur pratiquement rien, là, sur quelque chose qui n'a pas une valeur tangible et qu'il est capable lui-même de manipuler un petit peu ce cours-là au bout de la ligne.
Et peut-être un point, là, juste pour essayer de mettre un peu de contexte là, à notre audience aujourd'hui, là, on vous explique l'historique parce que l'histoire, dans la manière que c'est en train de sortir, c'est une des plus grosses fraudes qu'on a pu voir. En tout cas, depuis de mon vivant, c'est une des plus grosses fraudes que j'ai été capable de voir de ma vie. Et on dirait que, encore là, ça passe inaperçu. Donc, c'est important de bien expliquer tous ces points-là parce que c'est quasiment du jamais vu. Donc là, vous êtes capable de comprendre, déjà en partant, est-ce qu'on pourrait appeler ça un conflit d'intérêts? Avoir une firme d'un côté qui fait de la recherche, qui fait de l'investissement en crypto, et d'un autre côté, d'avoir une plateforme qui fait autant d'échanges et être propriétaire des deux de manière majoritaire, il y a peut-être un petit conflit d'intérêts déjà là qui pourrait s'intégrer là-dedans.
C'est ça, c'est surtout que la firme utilisait le book de l'entreprise pour trader contre les clients. Donc ça, c'est l'autre chose, élément. Ça pourrait nous rappeler l'histoire de Robin Hood. Je ne sais pas si vous savez cette histoire-là au niveau de Robin Hood, comment ils font de l'argent. C'est qu'ils vendent le book de leurs clients au hedge fund. Fait qu'eux sont capables de faire du high frequency trade, donc de upfronter, donc d'acheter l'action avant de la revendre. Donc c'est vraiment shady, mais ce qu'il faut aussi mettre en contexte là-dedans, c'est que évidemment cette année là, c'est une très grosse année pour le monde des cryptos, donc la bulle a vraiment éclaté. Et puis c'est vraiment important, là, je veux le dire déjà d'avance, il faut vraiment dissocier le Bitcoin des crypto-monnaies. Je vais expliquer un peu plus tard pourquoi il faut dissocier les deux. Parce que les acteurs dans le milieu, tu sais, on s'entend, les crypto-monnaies, là, vous allez penser beaucoup au gambling, il y a beaucoup d'expérimentations qui sont faites. Il y a plus de 20 000 crypto-monnaies, mais quand tu regardes le volume de transactions, il est concentré en seulement 4 cryptos et tokens. Donc, on s'entend pour dire en ce moment, là, 99% de tous les cryptos, c'est du vent, c'est des projets. Je suis gentil là-dessus, c'est des projets. Et donc, tout ce qui a explosé à ce moment-là, c'est vraiment aux alentours de mai, donc avril-mai, là, quand il y a eu le Luna, le fameux stablecoin, c'est supposé être un stablecoin. Puis que donc ça, c'est 45 milliards de dollars qui s'est évaporé en dedans d'une semaine, une semaine littéralement. On pourrait vous expliquer un peu là, comment c'était fait. Là. Donc, c'était un stablecoin algorithmique. Mais tu sais, ça sera peut-être le sujet d'un
podcast.
Mais en gros, c'est ce qui a été le premier domino qui a fait déclencher tout le reste. C'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que beaucoup d'entreprises de services crypto était over-leverage. Donc, il avait juste pris trop de dettes. Tout le monde était comme surendetté entre eux. Et ben beaucoup de gens avaient ce stablecoin qui était de un frauduleux également. Puis, ben ça a fait un effet crescendo. Vous avez des grosses entreprises, même ceux qui sont cotés à la bourse, qui sont tombés. Moi, ma thèse, c'est que à ce moment-là, FTX était aussi déjà dans la merde, vu leur exposition face au Luna. C'est juste que ils ont pas voulu le dire. C'est comme tu manges tes dents, puis là t'attends de voir si tout le monde tombe. Puis en plus de ça, il est venu comme un sauveur, mais au final, ça fait du sens. Il est venu sauver ses têtes.
Et peut-être un point, et là parlons-en de comment tout ça a été exposé aux yeux du public, ou est-ce que tout ça est devenu littéralement un bain de sang, pour appeler ça ainsi. C'est que FTX, au final, il y avait un investisseur qu'on pourrait appeler peut-être un compétiteur, qui, un jour, se dit, tu sais quoi, on va peut-être se retirer nos investissements dans l'entreprise. Et là, tranquillement, peut-être, Jonathan, tu peux embarquer un peu là-dessus. FTX, quand un investisseur sort, ça invite des fois d'autres investisseurs à sortir. Et là, faut donner l'argent à nos clients parce que l'argent est en train de sortir. Et maintenant, à un certain point, à un moment donné, quand il n'y a plus d'argent, on n'est plus capable de payer nos clients.
Effectivement, mais surtout, ce qui est arrivé, c'est que le 2 novembre, CoinDesk a dévoilé un peu la faiblesse d'FTX. Et le 6 novembre, le président de Binance, qui est l'échange numéro un, qui est actionnaire d'FTX, décide d'envoyer un tweet pour dire qu'il allait liquider sa position de FTT qui était dans FTX directement.
Donc, peut-être juste pour bien situer peut-être l'audience aujourd'hui, FTX, là, avant que tout ça explose, sur papier, je pense, et peut-être Julien, corrige-moi si je me trompe, dans les exchanges, pardonnez-moi l'anglicisme, mais peut-être numéro 4 au monde, et Binance, qui est un investisseur dans FTX, serait numéro 1 au monde. Je pense que ces chiffres-là sont corrects.
Ben, en termes de volume, FTX, à ce moment-là, c'est la deuxième plus grande plateforme après Binance. La troisième, c'est Coinbase.
OK.
Mais oui, le reste, c'est vrai.
Et juste pour mettre en situation visuelle pour les gens qui nous écoutent, à quel point que le président de FTX, Sam Bankman-Fried, était valorisé en termes de dollars. Il se vantait qu'il allait peut-être acheter une des plus grosses banques des États-Unis tellement qu'il valait cher. Ça a aucun sens, là, avant que ça arrive à ce moment-là. Et à ce moment-là, le Binance décide de liquider rapidement le FTT, qui est le shitcoin que FTX avait inventé.
Shitcoin.
Et à ce moment-là, il se retire tellement rapidement que ça fait chuter le cours du FTT. Et là, ça part vraiment une spirale assez incroyable parce que c'est là qu'on se rend compte vraiment que FTX, excusez-moi l'expression, se baignait tout nu et là, la marée descend.
Et voilà.
Et on se rend compte que finalement, effectivement, la majorité de leurs actifs étaient basés sur papier, sur leur propre monnaie qu'ils ont inventée, qui est en train de littéralement s'écrouler. Et là, en quelques heures, de ce que moi j'ai eu comme information, puis Julien, tu me corrigeras si les données sont pas réelles ou pas justes, mais on passe en quelques heures à un bilan de 900 millions d'actifs pour au-delà de 9 milliards de passifs. Et là, on vient carrément débalancer les livres à un point tel que là, ça fait plus de sens. Il y a pas assez de liquidités, il y a pas assez d'actifs dans FTX pour venir couvrir tout ce qu'il y a autour de ça. Et là, ce qui est impressionnant, c'est que Binance lève la main, qui est un peu dans une certaine sorte la personne qui a déclenché ce tourbillon-là, et dit « je vais venir vous sauver ».
Et voilà.
Et là, on voit sa sortie extrêmement publique de dire que Binance allait venir sauver FTX. Et après avoir ouvert rapidement les livres, se dit « non, on n'ira pas sauver FTX, ils sont en trop mauvaise position ». Mais Sam Bankman-Fried, pendant tout ce temps-là, tweet qu'il y a de l'argent dans les comptes, il n'y a pas de problème, ça va bien aller, et que la vie est rose, là.
On en parlera de ce qu'il dit sur Twitter parce que je pense qu'il continue même encore. Là. Il a peut-être fumé un petit peu trop de drogue, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais juste pour être certain, donc Binance, avant de dire que Binance veut acheter FTX, Julien, juste pour renchérir un petit peu ici, au moment qu'ils sortent et qu'ils littéralement sont en train de liquider un petit peu tout ce qu'ils ont avec FTX, je pense qu'à ce moment-là, c'est ça. FTX ne peut même plus payer les gens qui veulent sortir de tout ça. Je pense qu'ils ont des énormes problèmes financiers à ce moment-là.
Ouais, en fait, là, ils disaient, ça c'est SBF qui disait qu'en une semaine, ils ont eu pour 6 milliards de demandes de retrait. Okay? Pensez-y un peu. Fait que t'es déjà là pour une entreprise avoir pour 6 milliards de demandes de retrait, que les fonds soient un pour un, le backé, c'est sûr que ça fait un choc sur tes liquidités disponibles. Mais eux, déjà là, l'argent n'était même pas là. Il y avait juste plus d'argent dans les coffres. Fait que c'est sûr et certain qu'il allait tomber. Puis là, les gens ont commencé à poster sur Twitter qu'ils commençaient à avoir de la misère à retirer leurs fonds. Et donc, ça a créé l'effet boule de neige. Mais juste pour revenir, c'est pas Binance qui a demandé de sauver, c'est vraiment SBF qui est comme venu dire à CZ de Binance, hey, bien joué là, mais maintenant peux-tu peut-être me sauver? Puis là après ils sont rentrés dans une genre d'entente où que c'était pas contraignant pour Binance, ils pouvaient se retirer sans dédommagement, un non-binding agreement qu'on appelle. Puis ça a même pas duré 2-3 jours que là il a dit non, ça le prend pas là.
Il se retire. À tous les auditeurs du podcast Hypercroissance, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Êtes-vous satisfait de votre marketing numérique en 2022? Avez-vous été capable d'aller chercher cette croissance, voire même cette hypercroissance depuis le début de l'année? Si les choses n'avancent pas à la vitesse dont vous le voulez, sachez que J7 Media veut vous aider. En plus d'être une agence ayant géré 100 millions de dollars en publicité Facebook depuis sa fondation, le groupe J7 possède maintenant une offre beaucoup plus globale qu'avant. Notre équipe s'est agrandie et offre désormais des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/hypercroissance. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com/HYPERCROISSANCE ou encore écrivez-moi en privé sur LinkedIn. Je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et là, ça devient de pire en pire. Et là, je pense que ça va devenir de pire en pire la semaine prochaine quand on va réanalyser tout ça. Mais bon, on voit un peu le portrait. Jonathan, je me tourne vers toi avant qu'on rentre un petit peu plus dans le spécifique. Quand on voit ça, là, comment toi qui regarde un peu la... Bon, t'es pas nécessairement comme Julien est une entreprise dans le monde du Bitcoin, aide des organisations et des particuliers à chaque jour à investir en Bitcoin. Toi qui es peut-être plus un investisseur externe qui s'intéresse à la crypto, qu'est-ce que ça t'envoie comme message en tant qu'investisseur, en tant que quelqu'un qui peut s'intéresser à la crypto-monnaie, qui peut s'intéresser au Bitcoin? Comment tu réagis quand tu vois tout ça? Parce que c'est assez choquant et inquiétant, là.
Ma perception, c'est que tout ce que le monde du crypto met de l'avant comme bienfait a fonctionné. Puis là, vous allez dire non là au premier coup d'œil, mais la réalité de la crypto, la force de la crypto, c'est la décentralisation. Et le fait de laisser son argent dans un échange, un exchange, on perd la force de la décentralisation. C'est une compagnie qui centralise et qui, à porte fermée, manage des choses en arrière. Donc, généralement, si on laisse pas son argent sur un exchange comme ça ou qu'on ne l'utilise pas, un grand effet de levier, d'aller chercher des rendements mirabolants, ça fait du sens. Là, de ma perception à moi, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, autant du côté humain dans l'entreprise d'FTX, mais il y a des investisseurs qui étaient trop avares de rendement, du 15%, ça fait pas de sens là de se faire garantir ça. Puis en même temps, de laisser son argent dans des échanges comme ça, faut s'attendre à ce qu'à un moment donné, il y a un effet domino. Puis si on cherche un peu à connaître le marché, comment ça fonctionne, c'est assez facile de voir que tout le monde est extrêmement leveragé, qui utilise l'effet de levier à un maximum. Puis à un moment donné, il allait avoir un domino qui allait tomber en quelque part là. Donc, je dirais, c'est beaucoup une question de connaissance, de comment ça fonctionne. C'est un écosystème qui est complexe, mais dans ce cas-là, je pense pas que c'est la crypto qui est problématique, c'est plus l'être humain qui a voulu frauder et les investisseurs qui ont été un peu trop avares et qui n'ont pas suivi les bonnes règles non plus que normalement. Tu laisses pas ton argent dans un exchange, là.
Ouais, je le vois de deux manières. Je pense aussi que la crypto est problématique. J'explique. Je vous l'ai dit tantôt, hein, il y a plus de 20 000 crypto-monnaies, mais malheureusement, ces plateformes-là qui sont très grosses, les Binance, FTX, même Coinbase, ils font un listing de crypto-monnaies sur leur plateforme. Puis, automatiquement, pour le commun des mortels, le petit investisseur, il se dit « Ah, mais ça doit être legit. » Ça doit être une bonne crypto qui a un potentiel. Mais parallèlement à ça, la majorité de ces cryptos-là, c'est du vent. C'est rien du tout, là. Et beaucoup de ces cryptos-là, mais c'est des actions, comme je disais, c'est comme des actions non enregistrées d'entreprise. Donc, malheureusement, ces plateformes-là ont failli à leur devoir. Leur devoir, c'est qu'au niveau du marketing, comment ils marketent le tout, c'est à la limite même frauduleux. Puis j'irai encore plus loin. J'ai parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé avec le Luna, le Terra Luna qui était un stablecoin. Puis là-dessus aussi, il y avait leur stablecoin. Quand tu le mettais dans un genre de smart contract, tu pouvais avoir jusqu'à 20% d'intérêt annuel. C'est ce qui, en fait, c'est là que tout a dérapé, en fait. Parce que les gens, on leur promettait un rendement. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui a amené cette grosse phase-là qu'on a connue, c'est le fameux decentralized finance. Donc, c'est au niveau de toutes les applications qu'on dit décentralisées. Elles ne sont pas encore, on s'entend, mais ça va tendre vers là, où que ben on permet aux gens de passer sa crypto et de recevoir de l'intérêt. Donc, on essaie de reproduire les systèmes financiers actuels, où que ben toi, tu vas avoir de la crypto au lieu qu'elle dort dans ton portefeuille, ben mets-la dans un compte où que tu vas pouvoir générer de l'argent selon l'activité des gens qui utilisent cette plateforme. En gros, c'est ça. Mais au niveau que c'était marketé, c'était pratiquement comme si c'était du sans risque. C'était comme si les gens mettaient dans un compte épargne. T'sais, dépose l'argent ici dans un compte épargne, on te garantit 10-15% d'intérêt. Alors qu'au final, c'était littéralement « passe-nous tes cryptos et je te donne 10-15% d'intérêt ou 20% d'intérêt ». Là, vous voyez le risque qui est associé à ça. T'sais, si je te dis « passe-moi tes bitcoins que tu as achetés puis je te donne 20% d'intérêt », tu sais que c'est excessivement risqué. Mais c'est pas comme ça que ça a été marketé. Et malheureusement, puis ça, c'est un devoir des gens qui sont dans le milieu comme nous. Puis quand les prix du Bitcoin explosent, hein, tout le monde s'enflamme. On pense que c'est toujours la même histoire. On pense que ça va rester, puis que Bitcoin va aller à 100 000. Et puis, ben, ça descend aussi vite. Il y a vraiment un devoir des gens du milieu qui a été mal fait, et surtout des gens qui ont ces plateformes-là. Même, tu sais, au niveau des NFT, c'est la même chose. Et donc, c'est ça qui est un peu malheureux. Puis c'est un peu c'est comme ce retour de balancier qu'on est en train de voir aujourd'hui.
Maintenant, au-delà du retour de balancier, peut-être pour terminer un petit peu la parenthèse de notre ami SBF, qu'on l'appelle FTX, Alameda Research, c'est que comble du malheur, les fonds, ou du moins ce qui en restait, l'argent de FTX, eh bien, elle est investie à un endroit que là, je pense qu'on peut considérer qu'il y a vraiment un conflit d'intérêts et on est dans de la fraude comme pas possible. Peut-être, Julien, tu veux expliquer un petit peu où l'argent de FTX était investi et comment elle était utilisée?
Ben là, premièrement, il y a eu un hack. Tous les fonds qui restaient dans FTX ont été hackés. Personne ne sait si c'est un coup de l'intérieur ou si...
C'est fou. Incroyable.
Vous allez, le monde de la crypto, malheureusement, là, quand shit hit the fan, c'est vraiment sérieux. Vous allez entendre des histoires que c'est pratiquement surdimensionné, mais c'est vrai. Donc, premièrement, donc il y a eu un hack à ce niveau-là. Et deuxièmement, quand ils ont ouvert leur livre, on s'est rendu compte qu'il y avait même pas de Bitcoin. Donc, une entreprise qui a même pas de fonds de Bitcoin, qui est la seule vraie valeur, on s'entend. Donc, il y avait plein de crypto-monnaies et zéro Bitcoin. Et donc là, on se demande vraiment si les créanciers vont pouvoir être remboursés. Il y a des gros fonds d'investissement, tu sais, comme le fonds des... je pense que c'est les professeurs.
Teachers en Ontario.
Oui, exact.
En Ontario, vraiment, le fonds pour les professeurs, teachers.
Ils ont mis ça à zéro. Ils ont mis une créance douteuse zéro, direct. Ils n'ont pas pris...
Au-delà de 100 millions qu'ils avaient investi là, dans FTX. Là. Mmh. On parle de 100 millions probablement qui est perdu par le fonds des professeurs d'Ontario.
Oui, c'est aussi fou comme ça. Donc, puis là, ce qui est majeur, parce que là, on n'est même plus sur le cas des FTX quand vous regardez Twitter, c'est que là, c'est la contagion c'est l'effet domino que ça continue avec FTX. Donc là, en ce moment, pourquoi le prix du Bitcoin continue de chuter, c'est que vous avez le fonds le plus important qui a plus de 600 000 Bitcoins, qui est le GBTC géré par Grayscale. Donc ça, ce sont vraiment des gros whales dans le milieu. Donc là, il y a un de leurs produits qui s'appelle Genesis, qui permettait justement, comme je parlais tantôt, aux gens de faire du staking puis de recevoir de l'intérêt. Ben, en ce moment, il y aurait un trou de 1 milliard de dollars, littéralement, dans leur fonds. Donc, les clients qui ont fait du staking sur cette plateforme-là, en ce moment, ne peuvent même pas retirer leur fonds parce qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Donc là, ça fait un effet de contagion encore plus grand où que toutes les plateformes qui offraient ce type de service, comme Gemini, Coinbase, il y a énormément de retraits qui s'est fait sur la plateforme de Coinbase.
Bien sûr.
Binance aussi. Bref, toutes les plateformes centralisées en ce moment, elles sont vraiment un exode. Donc là, je pense que les gens commencent à comprendre, OK, non. Ça vaut pas la peine de laisser ces cryptos sur des plateformes d'échange, mais ça risque de faire un effet boule de neige parce que là, ce fonds-là, ceux qui gèrent ce fonds-là gèrent aussi le fonds GBTC qui permet à monsieur, madame, tout le monde d'avoir du Bitcoin dans son compte CELI ou dans son compte REER. Donc là, ce fonds-là, les gens pensent qu'il pourrait être en difficulté. Donc, ils devraient ultimement le liquider. Et là, sur Twitter, tout le monde demande à voir, ils sont où les BTC? Les 650 000 BTC que le fonds est supposé avoir. On veut avoir la preuve cryptographique, là. Donc, on va avoir la preuve sur le réseau des portefeuilles qui le détiennent. Et là, ben, c'est une spéculation qui continue. Ils veulent pas divulguer où est-ce qu'ils sont pour des raisons de sécurité, alors que ils devraient le dire. Donc là, c'est vraiment l'effet de contagion qu'on est en train de voir en ce moment.
Puis peut-être, Jonathan, je me tourne vers toi ici un peu. Merci d'ailleurs, Julien, pour ces clarifications. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est déroulé avec Alameda Research? Parce qu'eux, ils avaient besoin de revenus. Où est-ce qu'ils les ont trouvés, ces revenus-là? Et qui gérait Alameda Research, pour donner un peu de contexte à notre audience?
Ça, c'est vraiment impressionnant. Dans le fond, Alameda Research et FTX ont décidé d'avoir leur quartier général aux Bahamas. Ils ont déménagé là-bas avec un bel accord avec le gouvernement des Bahamas. Mais ils étaient à peu près une trentaine de jeunes qui avaient tous des relations romantiques une avec l'autre, qui géraient à ce moment-là Alameda et FTX. Et c'est, je sais pas si c'était encore sa petite amie à la fin, mais je pense que c'est une de ses ex-petites amies qui était rendue
une semaine. Une semaine ensemble, une semaine ils l'étaient pas, une semaine ensemble, une semaine ils l'étaient pas.
Une jeune de 28 ans qui était à la tête d'une compagnie qui roulait des milliards de dollars d'échanges puis de placements. Et allez voir ça sur YouTube, les entrevues que la personne, la jeune faisait de 28 ans. Et mon Dieu, ça fait pas de sens. Ça fait juste pas de sens. C'est complètement illogique. On voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Ce qu'on a vu jusqu'à la date, effectivement, c'est qu'il y aurait eu des fonds d'FTX qui auraient été transférés chez Alameda pour faire des trading. Et quand le marché s'est mis à descendre là, depuis le printemps passé, ils ont fait plusieurs transactions qui sont extrêmement douteuses. Puis là, Julien, tu pourras renchérir là-dessus, mais je pense que dans les derniers jours de l'histoire de FTX, Alameda a tenté de parier contre le USDT, qui est un stablecoin, une unité, une monnaie qui ne devrait jamais changer de valorisation. Ils ont parié contre cette monnaie-là pour tenter de la faire fléchir et se renflouer. Ils ont réussi à la faire bouger légèrement, mais pas assez pour créer un effet d'entraînement. Mais ils ont tenté le tout pour le tout. Mais ça, c'est pratiquement de la fraude. Là. C'est de la fraude. Ça n'a aucun sens. Là. C'est complètement illogique. Là.
Ouais, et ils shortaient aussi le Bitcoin. Mais pour revenir à la CEO d'Alameda, au final, on se rend compte que c'était FBF lui-même là, qui gérait l'entreprise. Il a juste mis un patin là, juste pour faire voir, là. Mais non, tout est frauduleux. La seule chose qui les sauve, puis là, je le dis comme ça, mais c'est le fait qu'ils étaient dans les juridictions là, aux Bahamas. Puis même là, je pense que les autorités locales vont sévir à ce niveau-là. Mais c'est vraiment un shit show ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on se rend compte que oui, ça, c'est l'autre élément qui est important à dire. FBF est le plus gros donateur au niveau politique des démocrates.
Et là, au niveau républicain aussi. Et au niveau républicain on fait énormément de donations pour les deux partis.
Okay. Il est brillant, très brillant.
Exact. Puis, il y a des liens familiaux, là, de près ou de loin, là, avec les régulateurs, dont lui qui est au niveau de la SEC, donc qui doit réglementer directement les crypto-monnaies. Ils sont en train de préparer la réglementation. Donc évidemment, il y a beaucoup de théories là, de conspiration à ce niveau-là, mais moi, c'est pas ce à quoi je m'attends. Je m'attends surtout au fait que c'est des exemples qu'on a déjà vus. T'sais, dans le cas, disons, de Madoff, Madoff était très près des régulateurs, très près du pouvoir, et donc tu peux pas le contester, même si tout est devant tes yeux. Là. La fraude est vraiment devant tes yeux, c'est flagrant, mais tu dis mais là, ça se peut pas.
Puis peut-être juste pour essayer de donner un peu de contexte à notre audience, Bernie Madoff, qui a été inculpé juste au début de la crise économique en décembre 2008, qui était vu comme encore une fois un devin du monde des finances. Je pense qu'il avait été chairman de la Nasdaq à un certain point, un peu comme le font la Middle Research sur papier, il promettait des retours de 15-20%. Et bon, on s'est rendu compte quand, encore une fois, Jonathan le dit, hein, quand la marée descend et que tu te baignes tout nu, ben là, tout le monde s'en rend compte. C'est un peu ce qui est arrivé avec Bernie Madoff. C'était un Ponzi scheme. Il s'est retrouvé, je pense, qu'il y a eu une centaine d'années en prison. Et c'est ça un peu, je pense, le parallèle que tu fais ici. C'est qu'il était très proche des régulateurs. Il était chairman de la Nasdaq. Et on a l'impression que c'est un petit peu un framework, pardonnez-moi l'anglicisme, qui a été utilisé par SBF ici.
Ouais, effectivement, c'est textbook. tu mets la foule toujours plus grande. Il y avait leur nom aussi sur un aréna de basketball. Je pense que c'est le Miami Heat. Même chose Miami pour Heat, crypto.com. Oui. C'est une autre plateforme aussi qui faisait la même chose. Que tout le monde pense qu'ils sont pas... ils sont insolvent. Donc, non, c'est pas encore fini cette histoire-là. Je pense qu'il y aura encore encore d'autres choses qui vont sortir, mais ce qui m'attriste, mais là, tu l'as dit, là, je pense qu'il y a des accusations criminelles de ce que j'ai entendu, parce que jusqu'à maintenant, le gars se promenait, là, il avait pas, il était pas arrêté encore.
Non, c'est sorti aujourd'hui que tranquillement, c'est en train de sortir. Tu vois, c'est sorti il y a littéralement 3 heures de ça. FTX goes to court, donc tranquillement ils vont ça va comme c'est une question de temps, je veux dire c'est une question de temps, ça risque d'être complexe à cause bien entendu de l'endroit où est-ce que les organisations étaient incorporées, hein. Faut le rappeler peut-être aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, le Bahamas c'est un paradis fiscal, donc t'es capable de t'en sortir à droite à gauche sur certains aspects, mais là on s'entend là, ça va être des accusations criminelles, donc ça risque d'être un petit peu complexe. Jonathan, je pense que tu voulais dire quelque chose ici.
Ben puis pour donner une idée la répercussion que ça a eu sur le marché de la crypto, il y a eu au-delà de 152 milliards de valorisation qui s'est effacée dans l'univers de la crypto-monnaie depuis la chute de FTX. Donc c'est assez impressionnant, puis c'est peut-être même plus aujourd'hui parce que Julien tu dis qu'il y a d'autres choses qui tremblent dans l'écosystème, mais l'impact de cette fraude là, elle est monumentale. Bien sûr. Jusque comme on en parlait pour les professeurs par exemple, le fonds des professeurs de l'Ontario, mais c'est vraiment impressionnant à quel point que de l'autre côté, c'est là, je paye mes mots, là, mais c'est un chef-d'œuvre de fraude dans le sens qu'il a joué toutes ses cartes de la bonne manière. Autant dans le personnage qu'il a voulu donner comme image, autant dans comment il a placé ses cartes avec les régulateurs, autant comment il a donné de l'argent au gouvernement, qu'il a trouvé la logique d'aller se placer dans une juridiction qui aurait eu moins de regards ou moins de problématiques si ça allait virer. Autant qu'il a réussi à placer les pantins où ce qu'il voulait pour faire semblant que c'était pas lui qui gérait tout et qu'il se donnait une image de la personne parfaite au bout de la ligne. Il a toutes les cartes possibles, il les a tous bien jouées. Mmh. Ça n'a aucun sens. C'est abominable et c'est probablement pour ça que c'est rendu aussi gros comme effet de domino puis effet de levier sur l'ensemble du marché. Là, il est parti de au-delà de 26 milliards de fortune sur papier à zéro pratiquement du jour au lendemain. Et là, je dis zéro, mais fort probablement que les 1 à 2 ou 3 milliards qui ont disparu, c'est lui qui est détient encore en quelque part.
Oui, puis la famille en a profité. Il y a des informations qui sont sorties que ce soit ses parents, ils ont quelque chose comme 100 millions là, en real estate au Bahamas qui ont les employés ont tous des maisons au Bahamas aussi. Donc, c'est vraiment, il a utilisé tous les fonds des clients pour son lifestyle. Il a dû aussi se remplir les poches à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment malheureux, en fait, là, comment cette histoire-là est en train de tourner.
Donc, on est capable de voir, il y a un chaos qui s'est installé avec FTX. Ça donne bien entendu un regard un peu noir sur le monde de la crypto-monnaie. Je parle ici d'un point de vue externe. Je parle pas nécessairement ici d'un point de vue interne, des gens qui comprennent les nuances, des gens qui sont capables de faire les distinctions. Mais disons, Julien, si en ce moment, tu as à t'adresser à un investisseur qui regarde ça de loin, la crypto, qui regarde ça de loin, le Bitcoin, et que ça lui fait peut-être un petit peu peur d'aller investir des sous de son porte-monnaie en Bitcoin, qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là aujourd'hui pour leur dire que finalement, peut-être des fraudes, ça peut arriver dans tout et que ça reste un investissement qui est quand même très intéressant à faire? Qu'est-ce que tu dirais un petit peu aux investisseurs?
La première des choses à leur dire, donc c'est la deuxième, en tout cas là, ça va être la plus grosse, mais ça me rappelle ce qui s'est passé en 2014 dans le domaine du Bitcoin. J'étais présent aussi. C'était la plus grosse plateforme d'échange qui, du jour au lendemain, a juste disparu. C'était 650 000 bitcoins qui s'étaient volatilisés. Et cette plateforme-là s'occupait de 70 % de tout le volume mondial sur les cryptos. Puis à ce moment-là, ça a vraiment fait reculer la cause des crypto-monnaies de 3 ans. Donc, c'est arrivé en 2014. Le prochain bull run est arrivé en 2017. Mais ce que j'ai vraiment à leur dire, c'est qu'il y a un besoin d'éducation, il y a un besoin de support et d'accompagnement. Comme je l'ai dit encore une fois, il y a une différenciation entre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Puis ça, c'est important à le dire parce que en ce moment, là, le Bitcoin, c'est le réseau le plus sécur. Je vous mens pas, là, en ce moment, c'est le réseau le plus sécur. Il est pratiquement impossible à hacker. C'est lui qui a le plus de hash power. Et puis, vous avez toutes ces expérimentations-là qui sont en train de naître. Puis, c'est pas pour... je parle pas comme un Bitcoin maximaliste. Là. Je dis pas investir juste dans le Bitcoin, puis le reste, c'est pas bon, pas du tout. Je dis juste qu'il faut avoir un œil averti de comprendre dans quoi on investit, dans quoi on met ses sous, parce que, évidemment, là... ça peut être vraiment fatal. Et puis, on a des histoires d'horreur qui sont arrivées. Vous avez beaucoup de crypto-monnaies qu'après ce bear market, on n'en entendra plus parler. Ils vont rester là, mais on n'en entendra plus parler. Puis, ça va être une nouvelle vague de nouvelles cryptos qui va comme arriver. Mais globalement, tantôt, on en parlait, là, je pense qu'il y a un wake-up call qui doit être fait au niveau de ce milieu-là. Il faut revenir à la base. Pourquoi les crypto-monnaies existent? C'est quoi le but fondamental, le besoin fondamental que ça vient répondre? Okay? Donc, on veut un alternatif au système financier. On veut que les gens aient plus de contrôle et de pouvoir sur leurs fonds. Donc ça veut dire qu'il faut que les gens soient leur propre banque, dans le sens qu'il faut qu'ils soient en possession de leur crypto. Alors, ça fait pas de sens de mettre ces crypto-monnaies sur une autre plateforme. Et on veut aussi la crypto qui est la plus décentralisée possible. Donc, il n'y a pas de risque de défaut ou de point de défaut. Faites une analyse des crypto-monnaies qui sont là en ce moment et vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont dans cet état-là. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, ça ne sera pas. C'est juste que c'est un wake-up call de dire, de revenir à la base. Oublions la vanité puis de courir après le rendement. Tu sais, je le comprends. Mais il faut venir à la base de c'est quoi, c'est quand Satoshi Nakamoto a mis le white paper du Bitcoin puis qu'il a créé ce nouvel écosystème qui est en train de vraiment de changer le monde comme Internet a changé le monde. Mais c'était quoi le but en arrière? Puis quand les gens vont se rendre compte de ça, mais là, je pense que ça va devenir de plus en plus sécuritaire pour les gens d'investir dedans. Puis, ben, tu sais, ces histoires d'horreur qu'on est en train de connaître aujourd'hui, les gens vont les flairer d'avance. Ils vont comme faire, ouais, ça a l'air louche, ça, je mets pas mes billes là-dedans. Ça veut pas dire que il y aura plus de fraude, mais au moins, il y aura pas cette magnitude de fraude. Il y aura plus ces montants astronomiques que des gens perdent leur chemise. Si vous avez des célébrités comme Tom Brady, je me demande même s'il est sorti de sa retraite pour il est revenu jouer parce qu'il a vraiment perdu beaucoup de sa fortune. C'est malheureux en fait, là. C'est vraiment malheureux ce qui se passe. Donc moi c'est un peu ce que j'aurais à dire. Informez-vous beaucoup avant d'investir. Et puis aussi ben il y a des entreprises comme la nôtre qu'on accompagne les gens justement pour leur expliquer voici ce que vous faites, les risques sont associés à quoi, à tout ce que vous voulez investir. Donc, vraiment, l'information est très importante avant de mettre quelques billes que ce soit là-dedans, dans la crypto-monnaie.
Mmh. Et toi, Jonathan, qu'est-ce que tu en retires de tout ça?
Ben, je pense que c'est tellement bien dit ce que Julien mentionne. La seule chose à travers tout ça, par contre, qui l'avenir va nous confirmer dans quelle direction ça va aller, c'est que il n'y a pas de régulateur central. Puis de mettre une régulation là-dedans, ça va être pratiquement impossible ou super difficile parce que ça touche tellement de pays différents, ça touche tellement de juridictions différentes, de lois différentes. C'est peut-être l'élément qui rend un petit peu, je dirais, du brouillard l'avenir, la crypto-monnaie, mais il y a réellement des cas que c'est bénéfique au bout de la ligne. Juste le transfert de dollars international, ben oui. Alors qu'avec un système traditionnel, ça prend des jours et des jours, et tandis qu'avec la crypto, ça prend une fraction de seconde, c'est fait, c'est réglé, c'est transféré. Il commence à avoir tellement des cas réels que c'est bénéfique. Par contre, il n'y a pas de régulation, puis ça va être super difficile d'en mettre au bout de la ligne. Donc, je pense que ça va être vraiment intéressant à regarder devant nous ce que ça va aller.
C'est intéressant.
Ça dépend où, par exemple. Ça dépend où, parce que si tu regardes au Canada et aux États-Unis, nous sommes les endroits qui sont les plus régulés. Je donne un exemple, notre entreprise pour opérer, ça c'est toutes les entreprises, les plateformes d'échange au Canada. Il faut des licences, on est audité, on a des états financiers qui sont audités. Puis on a aussi un reporting à faire auprès des régulateurs pour les transactions suspicieuses puis les grandes transactions. Donc, c'est vraiment régulé. Mais par exemple, comme tu l'as dit, là, dans d'autres pays, dans d'autres juridictions, mais c'est pour ça que vous avez les Binance, les FTX sont dans d'autres juridictions où que, au niveau de leur comptabilité, ils n'ont pratiquement même pas besoin de... Ils n'ont pas ces droits de regard-là à faire au niveau des régulateurs. Donc, et puis ça, c'est l'autre point aussi. La régulation, que d'ailleurs j'accueille, mais si elle est trop stiff, ça va faire qu'il y a une innovation qui va aller ailleurs. Le meilleur exemple, c'est ce qui se passe ici au Québec. Au Québec, en 2018, on a raté une opportunité au niveau du minage des crypto-monnaies. Donc, je peux vous rappeler, là, il y a eu un moratoire qui a été fait. En fait, là, c'est que la Chine venait de bannir le minage, venait de bannir pour la 100e fois le Bitcoin dans le pays. Puis là, les fermes de minage, là, donc ça, ce sont les entreprises qui qui participent au protocole. Donc, vous avez une machine qui mine, qui est connectée 24 heures sur 24 sur le réseau Bitcoin, les autres réseaux. Et puis, donc, ça dépense de l'électricité. En contrepartie, ça reçoit des coins. Et donc, là, plus il y a d'ordinateurs qui sont connectés au réseau, c'est ce qui fait que c'est le plus décentralisé possible et le plus sécur. Donc, c'est pratiquement impossible à hacker. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, en gros, c'est que il y a une grosse migration de toutes ces entreprises-là vers les juridictions où que le coût d'électricité était le moins cher. Donc, le Québec, ici, avec l'hydroélectricité, qui est en plus une ressource renouvelable, on était vraiment en tête de mire. Puis, ben là, évidemment, on le sait, nos politiciens, des fois, ils ont peur parce qu'ils comprennent pas. Tu sais, je comprends, on a toujours peur de ce qu'on comprend pas, mais ils ont fait un moratoire. Puis même aujourd'hui, dernièrement, là, ils ont encore mis beaucoup de restrictions à ce niveau-là. Donc, au niveau de la régulation, cet effet-là, si c'est trop stiff, ça fait que l'innovation va aller ailleurs. Et là, ben, on est peut-être devant l'industrie 4.0. Et imaginez les entreprises qui ont accueilli à bras ouverts l'innovation d'Internet, ben toutes ces juridictions-là, on pense à la Silicon Valley aux États-Unis, ça a amené énormément de croissance économique. Donc, il y a ça aussi qu'il va falloir qu'ils fassent attention, mais c'est écrit dans le ciel, là, dès le début de l'année prochaine, vous allez avoir des grosses régulations dans le monde de la crypto. Ça, c'est sûr et certain que ça va devenir... la porte va se fermer encore plus.
Bon, on va te ramener sur le podcast pour en parler, Julien. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, je te remercie. Je pense qu'on peut te retrouver quelques fois à Radio-Canada. Là, je t'ai vu quelques fois dans des entretiens. Tu fais souvent des passages à la télé pour parler de Bitcoin?
Ouais, puis malheureusement, c'est toujours quand ça va mal. J'aimerais ça être invité quand que... J'aimerais ça être invité quand ça va bien.
On va te voir bientôt. Ouais, on va te voir bientôt, Julien. Puis Jonathan, ben je pense que c'est une autre discussion d'affaires assez exceptionnelle. J'espère peut-être que la semaine prochaine, on va arriver avec des nouvelles un petit peu plus encourageantes que des fraudes incroyables, les plus grandes fraudes qu'on a vues depuis 15 ans. Là.
Effectivement. Mais c'est ce qui est spectaculaire. Puis je pense que ça peut aider les gens d'être prudents dans cet univers-là, ou du moins d'aller chercher de la connaissance puis de l'information. C'est la clé du succès dans peu importe laquelle investissement qu'on veut faire. Là.
Fantastique. Messieurs, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui pour cette discussion d'affaires. On a été capable d'avoir des visions différentes. On a été capable également de décortiquer selon les différents jours, les différentes semaines, cette histoire totalement fascinante, la fin de FTX, l'avènement de SBF qui, au final, ben, on s'est rendu compte, il valait pas grand-chose. Et je pense que quelqu'un qui fait des fraudes comme il a été capable de faire, il faut arrêter ça le plus possible. Il faut le dire pour être certain que le maximum de gens soient au courant de tout ça. Merci beaucoup, messieurs. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.